Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, Donald Trump et le budget américain.
Oui, donc fin de mi-mandat mouvementé pour le président Trump, entre les prises de position diplomatiques et stratégiques embarrassantes et la multiplication des déboires face à la justice et au Congrès, les deux prochaines années pourraient être difficiles au point de neutraliser le président. On analyse ça avec vous, Jeff Hawkins, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu, vous êtes ancien ambassadeur américain sur le continent africain, notamment en Centrafrique, actuellement enseignant à Sciences Po et chercheur associé à l'IRIS. Alors c'est vrai que depuis une semaine, l'étau intérieur se resserrait autour du président, le filet judiciaire des enquêtes russes, la pression politique avec une menace de shutdown temporairement évitée. Et puis, avant-hier, là, l'annonce du retrait de Syrie, faite contre l'avis du conseiller et des militaires par le président. Alors, même si on met de côté la question de terrain, Jeff Hawkins, là, Donald Trump prend le risque d'une décision isolée pour simplement remplir une promesse de campagne.
Oh, je pense pas que ce soit pour une promesse de campagne. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est une décision qui a surpris pas mal de monde, y compris au sein de son propre parti et au sein de sa propre administration. Donc, on se pose à Washington comme à Paris, pourquoi le président a pris cette décision-là.
Peut-être on pourra redire un mot de la diplomatie trumpienne, mais je disais, effectivement, c'est assez rare que le président prenne une décision contre l'ensemble de ses conseillers, alors même que ses anciens conseillers le lâchent peu à peu à cause de cette enquête russe, ou ces enquêtes plutôt, qui se resserrent de plus en plus ces dernières semaines.
Oui, quand on parle des enquêtes, il faut se rappeler qu'actuellement, il n'y a pas moins que 17 enquêtes en cours. Et là, on ne parle pas seulement de Mueller, mais il y a aussi des enquêtes sur sa fondation. Et vous avez peut-être remarqué la fermeture du fondation Trump,
oui, la Trump
par les autorités non seulement fédérales, mais les autorités de l'État de New York. Il y a eu une investigation sur le comité de cérémonie d'investiture. Il y a des investigations sur le Trump Organization, donc sur son entreprise. C'est vrai que c'est difficile de suivre tout ça en direct.
Et à quel point est-ce qu'il est menacé, notamment par les deux principaux aujourd'hui impliqués dans ces enquêtes, Michael Cohen, donc qui a été condamné à 3 ans de prison et qui rentrera en prison à janvier, son ancien avocat, et puis Michael Flynn, lui pour l'instant, qui est en attente de verdict reporté et qui continue à dire que le FBI l'a forcé à mentir, mais qui pourrait peut-être plaider coupable, comme Michael Cohen.
Oui, bon, quand on parle de menacé, il ne sera certainement pas accusé d'ici 2020 ou 2021, après son départ, peut-être, de la Maison-Blanche, parce que c'est la politique du département de justice aux États-Unis de ne pas porter plainte contre le président en exercice. Ceci dit, il y a toujours des risques de impeachment, donc une menace réelle venant pour l'instant de la Chambre des députés, maintenant contrôlée par les démocrates, et qui agit en quelque sorte comme procureur. Et par la suite, il y a un procès devant le Sénat. Donc, même si le président n'est pas destitué, les révélations qu'on pourrait voir pendant ce processus pourraient être politiquement très dangereuses pour le président. Et autrement, après son départ de la Maison-Blanche, et surtout si c'est après un seul mandat, il risque gros. Et notamment dans l'affaire de Cohen, qui a plaidé coupable pour des crimes dont il dit que la responsabilité revient au président. C'est le président qui a commandité ces crimes-là. Donc forcément, il y aura peut-être des procès. Le problème, c'est que, je ne sais pas comment vous dites ça en français, le statute of limitation, c'est-à-dire la limite
d'application.
D'application, ouais. Voilà. Pour ces crimes-là, ça expire assez rapidement. Donc c'est en 2021. Donc si le président arrive à se faire réélire, il est protégé. Et donc, le président Trump a fortement intérêt, justement, à faire une très bonne campagne en 2020.
Ça, ce sera à suivre, le feuilleton de ces enquêtes avec des faits très graves. Effectivement, co-conspiration pour la question des versements d'argent, notamment aux deux ex-playmates, maîtresses de Donald Trump. Alors, on parlait du Congrès. Est-ce que, sur un autre plan plus politique, est-ce qu'il n'y a pas là un levier très fort pour les démocrates? On vient de le voir avec cette question du shutdown, cette menace dans les négociations avec le mur. Finalement, le Congrès s'est montré très résistant.
Oui, il faut se rappeler que Donald Trump a très peu d'expérience politique. Et ces deux premières années de présidence, il a eu le bonheur de travailler avec un congrès totalement acquis républicain et qui était très complaisant vis-à-vis du président. Maintenant, la situation a changé assez radicalement et on a une chambre, pas les deux, le Sénat reste entre les mains des républicains, mais une chambre qui est maintenant contrôlée par les démocrates. Et on l'a vu cette semaine dans cette fameuse réunion entre Schumer, qui est le chef des démocrates au Sénat, et Nancy Pelosi, qui sera bientôt la présidente de la Chambre des députés. Et Trump était totalement dépassé par tout ça. Et il voulait faire une discussion en direct devant les caméras. Et c'est clair que, surtout Nancy Pelosi, qui est très rusée, a su vraiment mettre beaucoup de pression sur le président. Et maintenant, on va certainement voir un compromis. Trump qui disait « Oui, je suis prêt à fermer le gouvernement pour avoir 5 milliards pour mon mur. » Maintenant, il ne parle pas aussi concrètement.
Oui, c'est ça. Il y a eu cette scène assez extraordinaire. J'engage nos éditeurs à la regarder. Un échange télévisé le 6 décembre où il disait à Trump, je serai fier d'aller au shutdown au nom de la sécurité des frontières. Là, il a quand même dit, puisque c'est ça l'enjeu, la construction du mur et les 5 milliards, juste après la décision du Sénat de cette semaine, d'une manière ou d'une autre, nous allons gagner sur le mur. Ça veut dire qu'il a toujours l'intention de le faire financer ou par la Chambre ou par le Mexique.
Le Mexique, ça m'étonnerait. Et par la Chambre aussi, je pense, même parmi pas mal de républicains, c'est un symbole. Et pour...
Donc, il maintient le symbole, même s'il a perdu, alors.
Oui, mais pour ceux qui sont sérieux sur la sécurité, sur la frontière, et il y en a non seulement dans le Parti républicain, mais beaucoup dans le Parti démocrate, c'est pas là qu'on doit procéder. Construire un mur pendant des milliers de kilomètres de frontière entre le Mexique et les États-Unis, ça n'a pas de sens. Il y a d'autres mesures beaucoup plus efficaces qu'on pourrait prendre. Ouais. Et les démocrates ont proposé, justement, une augmentation assez importante du budget de sécurité des frontières. En échange sur des questions d'immigration, Trump n'a pas accepté. Il veut absolument ce symbole parce que sa base s'attend à voir un grand mur entre le Mexique et les États-Unis.
Et alors plus largement, comment vous évaluez sa capacité d'action au terme de ces deux années? On voit que notamment il y a la Fed qui prend des décisions de hausse des taux contre l'avis de Trump, qui vient de perdre le secrétaire d'État à l'intérieur très important sur les questions environnementales, qui vient de perdre aussi John Kelly, le chef de cabinet de la Maison Blanche, à la fois isolé et entravé. C'est un peu ça sa situation aujourd'hui?
Oui, isolé, et il y a plusieurs facteurs. La donne a beaucoup changé ces derniers temps. Premièrement, la victoire des démocrates pendant les élections de midterm. On commence à voir que c'était plus important qu'on avait pensé à l'époque. Ces 40 sièges à la Chambre des représentants que les démocrates ont gagnés représentent vraiment une victoire assez importante dans une période où les vents étaient plutôt favorables aux républicains. Donc déjà, on ressent un certain rejet, au moins dans une partie de l'électorat de Trump, même si sa base reste fidèle, ailleurs très faible. Et donc dans les sondages, à peu près, je pense pour l'instant, 43% des Américains approuvent. Donc c'est pas le pire qu'il a jamais eu, le pire score, mais c'est quand même pas très bien. Il y a maintenant la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates et on va avoir toute une série d'investigations, d'enquêtes, de révélations sur son comportement. On le voit déjà. Il y aura aussi le fait que maintenant, on entre bel et bien en campagne électorale. Et déjà, il y a des démocrates qui se prononcent et le comportement d'un sénateur, par exemple, est différent s'il a des visées sur la Maison Blanche que si on est en temps normal. Et donc, ça aussi, ça va peut-être exacerber les tensions entre les démocrates et les républicains. Et finalement, il y a cette question de ce qui attend Trump après son départ. Et là, il est vraiment en danger. On risquerait peut-être de voir un comportement en fonction de ce danger. Oui. En même temps, j'ai l'impression que les vents peut-être commencent à tourner. Et là, ce qui marchait assez bien pour le président Trump par le passé, on a l'impression que ça marche un peu moins bien. Par exemple, 62% des Américains maintenant croient que le président n'est pas honnête quand il parle de l'enquête sur les Russes et sur une potentielle coopération entre sa campagne électorale et les Russes, il y a des signes très faibles, et je ne veux pas exagérer, parce que le Parti républicain, lui, est toujours très solide, mais c'est-à-dire un vote dans le Sénat américain récemment, ils ont condamné l'assassinat de Khashoggi par les Saoudiens.
Oui, tout à fait.
Ils ont voté pour la fin de l'aide américaine à la guerre saoudienne au Yémen, qui était un rejet de la politique du président Trump. Donc même maintenant, quelques républicains sur quelques sujets commencent un tout petit peu à mettre en question la politique du président.
Oui, donc c'est pas encore la déstabilisation, mais en tout cas quand même un début d'érosion à suivre ces deux prochaines années. Merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui, Jeff Hawkins. Et puis j'ajoute que à partir de la semaine prochaine, Émilie Chaudet présentera les enjeux internationaux. Quant à nous, je vous donne rendez-vous à partir du 2 janvier pour la reprise. Passez de bonnes fêtes et bonne journée.